Donc je voulais faire un petit point sur ce qui était des résistances locales. Donc revenir un petit peu sur le difficile combat des associations. Il faut savoir qu'il y a une poignée de militants vraiment et une poignée d'associatifs qui interviennent auprès des populations migrantes. Ces associations qui sont traversées par des problématiques, justement, comme on l'a soulevé avec Pierre, des problématiques autour de la légitimité française sur ce même territoire. C'est vrai que c'est un peu schizophrène aussi de notre part, parfois, de vouloir demander l'application du droit des étrangers sur un territoire que l'on estime être pas forcément le nôtre, pour certains militants. Pour d'autres, la question se pose moins. Mais toujours est-il que la répression, par contre, vis-à-vis de ces associatifs qui souhaitent intervenir auprès des populations en difficulté, reste assez flagrante. Donc hier, je l'ai évoqué assez rapidement, mais effectivement, je ne connais pas un militant qui investit dans le droit des étrangers qui n'a pas eu des problèmes dans son travail, dans sa vie personnelle, vis-à-vis de cet investissement. Encore récemment, on avait le président du réseau Éducation sans frontières à Mayotte qui s'est intéressé au cas des mineurs isolés, qui a enfin gagné son combat pour pouvoir rester sur le territoire mahorais et pour pouvoir continuer à enseigner après 2 ans de procédure juridique contre le préfet de Mayotte qui avait décidé de ne pas renouveler son contrat. Savoir que les fonctionnaires sont soumis à une pression importante, je vous parle même pas des contractuels, moi j'étais moi-même contractuel et j'en connaissais d'autres, qui ont vu leur contrat pas renouvelé avec sans ambiguïté, c'est-à-dire en vous disant concrètement, c'est parce que vos activités militantes vis-à-vis des personnes migrantes posent un problème, donc on ne vous renouvellera pas. Oral, mais écrit, ça ne les gênerait pas. Je pense qu'écrit, ça ne les gênerait pas. On a donc un combat qui est très difficile. Je ne parle pas des Comoriens eux-mêmes qui sont du coup soumis à une répression sans vergogne. On a eu de nombreux Comoriens, camarades Comoriens qui se sont investis dans le combat et qui se sont retrouvés expulsés du jour au lendemain, donc perdant tout, parfois passés à tabac aussi par les autorités policières. Il faut savoir que ça, c'est une des grandes forces de la France, c'est-à-dire d'avoir des moyens de répression tout à fait importants et tout à fait libres. Puisque moi, je vivais dans un village où effectivement les forces de police intervenaient à 4h, 3h du matin. Il faut savoir que l'heure légale pour intervenir, c'est normalement 5h du matin. Qui forçaient les portes. Quand je dis forçaient les portes, c'est gentil, c'est parce qu'ils les détruisaient. Renversaient la nourriture des gens quand ils n'étaient pas là. Jetaient des grenades lacrymogènes sur les enfants. Enfin bon, on est dans des choses qui sont pas du tout anecdotiques et qui sont de l'ordre des pires horreurs qu'on a vues dans l'histoire de la police française ou de l'armée française, quoi. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont absolument abominables, des passages à tabac réguliers, vraiment une œuvre d'intimidation qui est flagrante. Œuvre d'intimidation qui est tellement gênante pour l'État français que face à quand même un sentiment de rébellion qui commençait à poindre dans les forces de l'ordre locales, on a décidé de faire tourner dans les colonies, enfin dans ce que j'appelle les colonies, dans les dom-toms, les gardes mobiles, donc ça, vous savez, ce sont ceux qu'on voit en manifestation, on les fait tourner sur les dom-toms dans des périodes de 3 à 4 mois. Donc les gardes mobiles restent en moyenne 4 mois à Mayotte. De sources d'amis qui sont dans les métiers de la santé, beaucoup d'entre eux, au bout de ce séjour de 4 mois, se posaient d'énormes questions sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient. Et donc c'était arrivé au moment de la fin de leur contrat à Mayotte, et on les envoyait en Guyane, par contre, cette fois-ci, s'occuper des orpailleurs, avant de les ramener un petit peu en France, s'occuper des manifestants. Donc on a des gens qui tournent, donc on est dans des vraies stratégies justement pour éviter tout sentiment de rébellion, de lien vis-à-vis des populations qui sont soumises à ce genre de traitement, pour éviter et pour garder une machine efficace. Et ça, c'est M. Sarkozy qui a vraiment rendu ça encore plus accessible, c'est-à-dire que ces effectifs de police ont été vraiment mis en place dans une optique de ne pas rester longtemps et de pouvoir être efficace, rapide et surtout d'éviter toute forme de mutinerie entre guillemets. Parce qu'il faut voir quand même que c'est des situations qui sont absolument effarantes. Le MPM et les chatouilleuses dont parlait Pierre, ça reste aussi des groupuscules qui sont très actifs à Mayotte, qui sont très enclins aussi au discours anti-immigrés. C'est eux qui les tiennent. Quand on a des manifestations, il y a une confusion qui se fait entre chatouilleuses, indépendantistes. Dès qu'on pose la question migratoire ou la question de l'abolition du visa, parce que effectivement, le visa, il est mis en place depuis 1995 et il provoque tous ces drames quotidiens. La question du visa est intimement liée à la question de l'intégrité territoriale comorienne pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de poser même juste une question de dire la libre circulation entre les îles, pourquoi l'avoir supprimée ? Cette question-là est évidemment et éminemment politique. C'est-à-dire qu'il est impossible de pouvoir, et y compris dans les associatifs, poser la question de l'abolition du visa au sein de Mayotte. Qui dit abolition du visa dit forcément Mayotte indépendante, Mayotte comorienne. C'est-à-dire que le discours est vraiment très binaire et c'est ça qui est le plus marquant à Mayotte. C'est-à-dire que la réflexion n'est pas possible. On ne réfléchit que d'un prisme. C'est-à-dire être français, si on estime que Mayotte ne doit pas rester française, on est anti-comorien, on est anti-français, on est anti-maoré. Si vous vous estimez en tant que français que Mayotte n'a pas à être française, vous êtes anti-maoré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure. On est vraiment dans des schémas binaires pour toutes les questions, et notamment la question du visa, puisque c'est une question centrale. Effectivement, déjà restaurer la libre circulation, quand on souligne que sur les 35 ans de présence française à Mayotte, il y en a quand même 20 ans qui se sont faits avec une libre circulation entre les îles, et que c'est étonnant de voir que depuis 15 ans, on a décidé de fermer les frontières et de provoquer tous ces drames, il n'y a aucune réflexion possible sur ce genre de situation. On ne peut même pas, quelle que soit sa conviction vis-à-vis de la présence française, poser cette problématique. Et c'est là où le drame est assez important. J'aurais aussi envie de dire, un petit bémol, que l'État comorien aussi a un rôle ambigu, parce que si aujourd'hui on a ces 21 000 ou ces 16 000 reconduites, c'est bien du fait qu'ils ont un territoire pour les accueillir, Anjouan qui régulièrement, une à deux fois par an, fait quand même un coup politique vis-à-vis de la France pour dire aujourd'hui on ne va plus accepter les reconduites, par exemple en exigeant que les personnes reconduites aient une carte d'identité. Donc là, vous ne voyez plus aucun ressortissant comorien qui a une carte d'identité, donc impossible pour eux d'être reconduits à Anjouan. Et ça reste des combats pour de l'ordre de quelques semaines d'Anjouan pour obtenir sans doute et très souvent des faveurs de la France et des engagements plus importants de la France. Donc il y a un rôle ambigu de, pas l'État comorien, mais vraiment de certaines îles de l'État comorien, notamment Anjouan, qui sont alliés aussi au fait que, comme le soulignait Pierre, l'investissement français est de plus en plus important pour soutenir des mouvements séparatistes des Comores à Anjouan et pouvoir soutenir aussi des gouvernements pro-français qui ne sont pas trop regardants vis-à-vis des politiques de reconduite. Il faut savoir que même pour les Comores, les migrants et notamment par exemple les demandeurs d'asile africains sont des variables d'ajustement aussi de pression diplomatique sur la France. C'est-à-dire que régulièrement, les Comores ouvrent, entre guillemets, le passage aux ressortissants africains. Là, encore, quand j'étais parti, ils avaient ouvert le passage à des ressortissants népalais. Donc à Mayotte, on retrouvait des Népalais. On a trouvé aussi, j'ai rencontré des Palestiniens. Donc régulièrement, les Comores décident de favoriser le passage de certains migrants pour faire pression vis-à-vis de la France et pour leur faire peur en disant que on est capable d'ouvrir aussi le passage à certains ressortissants pour pouvoir obtenir des choses. Donc c'est vraiment cette question des migrations, un pôle important dans les relations diplomatiques et bipolaires de la région. Alors, résistance et perspective, j'avais mis ce point-là. Les résistances sur Mayotte, très difficile. Je pense qu'effectivement, la résistance est peut-être plus facile à construire en France. Toujours est-il qu'il faut quand même poser la problématique et poser la particularité de Mayotte dans ces conditions. Et c'est là où ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que on a quand même beaucoup de difficultés à poser la problématique de la présence française à Mayotte plutôt que de poser la problématique de territoires colonisés par d'autres nations extérieures à la France. Donc quand on s'intéresse à Mayotte, on rentre tout de suite dans l'anecdotique. La question sur la nationalité, elle est revenue dans les débats publics il y a encore quelques mois, hein, quand on a dit qu'une fois il fallait arrêter aussi avec, fallait remettre en cause la nationalité, le droit d'accès à la nationalité, notamment du fait de la situation de Mayotte, il fallait plus forcément permettre l'accès à la nationalité aussi facilement. Il y avait eu les grandes envolées aussi de Monsieur David Douillet qui avait suggéré de mettre l'hôpital de Mayotte comme terrain extraterritorial, c'est-à-dire que ceux qui naissaient dans l'hôpital de Mayotte ne seraient pas sur le territoire français. On est vraiment dans l'utilisation systématique de cette question mahoraise dans des grandes caricatures pour pouvoir justifier ensuite une application législative. C'est un peu la même chose aussi en Guyane, hein. On est vraiment dans du schématique pour pouvoir permettre de justifier ce genre de choses. Alors les résistances et les perspectives en métropole, il y a des collectifs qui naissent, qui essayent de se battre aussi sur la reconnaissance de la situation. Il y a un gros travail que l'on fait et que Môme fait depuis des années déjà, Migrants Outre-mer, pour essayer de mettre ces problématiques aussi au sein des mobilisations et des campagnes internationales qui s'opèrent. Puisque par exemple sur la question des naufragés en mer, on essaye systématiquement de raccrocher la question de Mayotte aussi, sur ces drames maritimes qui s'opèrent. On sent bien que là, il y a un malaise quand même qui s'opère aussi et une situation qui est difficile à mettre en place. On essaye aussi d'aller le plus possible dans cette voie-là aussi pour pouvoir arriver à mettre un peu la lumière sur ce qui se passe. Parce que si de telles choses sont possibles, d'autant de milliers de morts en mer, autant de personnes reconduites, autant de drames qui s'opèrent chaque jour à Mayotte, c'est bien parce qu'aussi la grande force de la France a été de maintenir un isolement autour de cette question et notamment un isolement médiatique. Quand la lumière et le focus est fait sur la question mahoraise, on est tout de suite dans du caricatural, comme M. Douillet le disait. On est tout de suite dans l'histoire de la menace vis-à-vis d'une invasion hypothétique sans vraiment réfléchir à la réelle question. C'est d'ailleurs même moi ça qui m'a poussé à aller à Mayotte pour essayer de me rendre compte, puisque effectivement ça me paraissait tellement aberrant ces chiffres et ces choses exposées que effectivement il faut s'intéresser de près à cette question-là pour essayer de déconstruire ça. Et ce qui est important de voir, c'est que tout ce que je vous décris là en termes de politique législative vis-à-vis des migrants, on peut le décliner sur beaucoup d'autres choses et on voit que Mayotte, en termes de temps, a été un laboratoire d'un certain nombre de choses. Les dispositifs policiers que je vous ai décrits, notamment pour la surveillance des frontières, on les retrouve aujourd'hui dans les espaces comme européens tels la Méditerranée avec des dispositifs tels que Frontex, c'est-à-dire des moyens alloués militaires pour surveiller des frontières sous des prétextes tout à fait fallacieux. Je sais que Mayotte aussi, enfin les Comores sont de plus en plus rapprochés par la France pour pouvoir être une des pièces aussi de l'opération de surveillance maritime au large de la Somalie, de lutte contre la piraterie. Madagascar a intégré ce dispositif-là, ça s'appelle un dispositif Atalante, dans lequel l'Union européenne a mis des moyens militaires de surveillance des eaux maritimes, qu'elle ne cesse de renforcer et qu'elle voudrait renforcer. Et on sait très bien que quand on lit les textes officiels aussi concernant la surveillance des frontières à Mayotte, on se félicite du renforcement des moyens maritimes sur Mayotte, qui sont à la fois alloués sur la surveillance de la piraterie et dont une partie est allouée à la surveillance des migrations locales. Donc on a vraiment une confusion des genres, des choses qui s'opèrent aujourd'hui en Méditerranée et qu'on voit aujourd'hui via Frontex. Voilà, merci.